Tout va bien, Jacques? Alors, quand on aura un petit peu plus de temps dans l'avenir, je continuerai avec la première épître de Jean, que j'ai commencé il y a quelques semaines. On a fait une petite étude ensemble. Une autre fois, je reviendrai à cela, parce que ça va prendre du temps. Mais le Seigneur m'a donné quelques pensées cette semaine, et je vais le partager avec vous. Le Seigneur veut vous employer, il veut vous remplir de son Esprit Saint. Je suis très content de ce matin parce que dans les chants, dans la louange, j'ai ressenti vraiment la présence de Dieu et c'est Dieu qui a dirigé toutes choses, aussi pour la Sainte-Seine. Merci pour ce beau chant, merci pour la louange que nous pouvons offrir à Dieu parce que c'est sa nourriture. Dieu est présent justement dans les moments de louange, on connaît bien ça, ça vient de psaume 22. Et donc la nourriture de Dieu, c'est la reconnaissance de notre cœur, c'est la louange de notre cœur. Et Dieu a mis sur notre chemin, pendant ce mois passé, des personnes qu'on ne connaissait même pas, pas du tout, des chrétiens qui sont venus pour vraiment, avec des cris d'alarme, cris de problèmes, cris d'aide, ils ont vraiment besoin d'être aidés. Et donc on a reçu des personnes qui viennent de la Belgique, il y a des personnes qui sont venues de la région ici, mais qu'on ne connaissait pas. Et puis encore hier, on avait tout un après-midi, 3 heures avec eux pour les aider. Et on pose toutes sortes de questions parce qu'ils ont des problèmes, mais les problèmes présentés ne sont pas tous les vrais problèmes, c'est beaucoup plus profond que cela. Donc dans la relation d'aide, on a compris cela. Et puis à la fin, souvent je pose cette question, Beryl et moi nous posons cette question, et comment est-ce que vous ressentez Dieu dans votre vie? Je ne parle pas de ce que vous avez reçu pendant les messages ou dans les études bibliques, ce que vous savez de la Bible, mais comment est-ce que vous ressentez Dieu? Comment est-ce que vous vivez avec Dieu dans votre vie? Alors là, il faut entendre des réponses. Souvent, c'est assez vague, c'est souvent décevant, c'est souvent triste, parce que les gens qui sont chrétiens pendant des années, mais dans leur vie de chaque jour, ils ont peu d'expérience vraiment avec Dieu, comme leur Père, avec Jésus, comme leur Sauveur, avec le Saint-Esprit qui est là comme un ami, comme un paraclète, comme un avocat, comme quelqu'un, un ami à côté d'eux. Peu. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent encore comme des orphelins. Et j'ai l'impression, c'est le mot que j'ai reçu ce matin quand j'étais ici, le mot « perdu de vue ». Perdu de vue. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais Dieu perdu de vue dans leur vie de chaque jour. Et ça, c'est triste. Et je crois que si on n'a pas cette expérience de Dieu de notre vie, quand on n'a pas cette présence en nous, quand on ne ressent pas vraiment son amour, on peut chanter des chants sur l'amour de Dieu, on peut lire des poèmes, on peut lire des passages sur l'amour de Dieu, mais en fait, ce sont seulement les paroles. Et les paroles, hein. Ça passe, mais l'expérience profonde, les traces de notre cœur, de notre vie, de l'amour, ça reste. Et j'ai senti ce matin, il y a une soif pour l'amour de Dieu ici. Et je crois qu'on ne peut jamais, jamais, jamais avoir assez de l'expérience de l'amour de Dieu de notre vie, parce que c'est l'amour de Dieu qui nous presse. Ce n'est pas parce qu'on nous dit, quelques gens qui vous disent, il faut évangéliser. Ce n'est pas par devoir, ça ne tient pas longtemps, parce qu'on se fatigue. Mais quand on aime une personne vraiment, on ferait tout pour cette personne. Et je crois souvent qu'il y a un manque d'amour pour le Seigneur, parce que nous n'avons pas peut-être expérimenté l'amour de Dieu pour nous. Si on se rend compte combien Dieu vous aime, si je me rends compte combien Dieu m'aime, alors ça va changer ma vie. Et je crois là, il y a un progrès à faire. Alors on fait toujours des expériences avec le Seigneur. On pense connaître certaines choses, mais on le connaît encore mal. Ou on connaît ça seulement partiellement. Et j'ai pensé justement à un passage, le Seigneur me l'a montré, parce que j'ai eu quelques notes que j'ai notées hier soir. Et le Seigneur m'a montré certaines choses. Encore ce matin, j'ai dit, Beryl, c'est quoi ça? 1 Jean chapitre 3, verset 1. Vous le connaissez par cœur? C'est un verset important. 1 Jean 3, verset 1. Quel amour le Père nous a témoigné que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Quel amour de Dieu nous a témoigné que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. L'amour de Dieu. Et je crois donc Jean, Je vais parler un petit peu de Jean ce matin surtout. Jean, il a vraiment eu des expériences avec Jésus qui sont vraiment merveilleuses et profondes. Alors, la dernière fois, quand j'étais ici devant vous, on a regardé un petit peu 1 Jean, chapitre 1, et nous avons vu que Jean, il nous a envoyé une lettre, c'est pour nous ici à Wavrin ce matin. Et dans cette épître, il dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, nous en parlons avec vous. Nous le partageons avec vous, afin que vous soyez en communion avec nous. Et que c'est ma joie profonde, ma joie parfaite d'avoir la communion avec Dieu, il dit, et avec vous. Et là, on a parlé un petit peu de l'incarnation, et quand j'ai parlé de cela, j'ai parlé de Jésus qui est devenu chair. Dieu est devenu chair, Jésus est venu, Emmanuel, Dieu avec nous, ça c'est merveilleux, et on a parlé un petit peu ensemble pourquoi l'incarnation, et je crois que j'ai dit, parce que Dieu a eu un corps, et dans ce corps, il allait mourir pour nos péchés, vous vous souvenez? Dieu est devenu chair, l'incarnation, afin qu'il puisse mourir pour nous, mais ce n'est pas tout. Et là, le Seigneur a ouvert mes yeux hier pour une chose que je pensais connaître. C'est Matthieu 11, verset 28-29. Si vous voulez le prendre, Matthieu 28-29. C'est une chose que je commence avec ça. Matthieu 11, verset 28-29, archi connu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et parfois on est fatigué. Moi aussi, chargé, moi aussi. Et je vous donnerai du repos, Jésus dit. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Si vous êtes fatigué, faites ça, faites cela. Si vous le mettez en pratique, le Seigneur est là pour prendre vos fardeaux. Merci Seigneur. Mais, je me suis dit, c'est un verset merveilleux, parce qu'on l'emploie pour l'évangélisation. Les gens qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, venez à Jésus pour le salut. Mais ce n'est pas seulement cela, ce n'est pas pour l'évangélisation, je crois que c'est pour ses disciples qu'il a dit. Pour vous et moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et je dis, c'est merveilleux Seigneur, parfois on est religieux, c'est quand même un poids d'être religieux, hein. Ce n'est pas ça la vie, c'est son devoir. Les pharisiens étaient religieux. Ils étaient des hypocrites, ils donnaient des fardeaux sur les autres aussi. Quand on est religieux, c'est un fardeau. Mais le Seigneur est venu pour nous donner des relations. Et là, je me suis dit, Matthieu 11, verset 27-28, « Venez à moi, mais pourquoi venez à moi? Quel est le contexte ?» Et là, le Seigneur a ouvert mes yeux hier, que je n'avais jamais découvert avant. Pourquoi Jésus dit cela, de venir à lui? C'est le verset avant, et le verset avant, regardez avec moi, le contexte n'est pas ça, seulement pour être sauvé, ou pour que le Seigneur puisse ôter nos fardeaux, pas du tout. Jésus dit, « Toutes choses, verset 27, m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et juste avant cela, verset 26, il dit, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Donc, toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Moi, je crois de tout mon cœur que le Fils, Jésus-Christ, Fils de Dieu, veut vous révéler le Père. C'est pour cela que dans le verset suivant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », c'est « Viens à moi, parce qu'il y a des fardeaux dans votre vie, la vie n'est pas facile sans Dieu, mais viens à moi, parce que je vais vous révéler le Père. » La révélation du Père. Ça, c'est le contexte. Venir pour connaître le Père. Et Jésus-Christ, donc, l'incarnation n'est pas seulement que Jésus puisse mourir pour nos péchés, mais afin qu'il puisse révéler le Père. Et il y avait des signes, des miracles, il y avait des paroles, tout cela pour faire connaître le Père. Il dit, ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon Père qui le dit. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi, c'est le Père qui le fait. Pleine dépendance du Père. Jésus était le message vivant du Père. Et moi, je crois fermement que ce ne sont pas nos paroles, notre témoignage, nos sermons qui vont changer les gens. Mais c'est notre vie. Les gens nous regardent. Comment on sourit, comment on est patient, comment on est aimable, comment on est plein de bonté pour les autres. Nous devons être des lettres vivantes qui sont envoyées par le Père. Et Jésus-Christ est la lettre parfaite du Père. Et je crois, nous chrétiens, nous avons de petites réunions avec une petite Sainte-Seine. Et moi, j'étais très content de Sainte-Seine ce matin. Je n'ai jamais eu une Sainte-Seine dans ma vie comme ça. Je n'ai jamais pris un aussi grand morceau qui était vraiment sucré, plein de miel. Merci beaucoup. Non, mais c'est une bonne idée. Parce que moi, je pense ce matin, j'ai pensé à la Sainte-Seine quand Jésus était avec ses disciples, n'était pas triste. La Sainte-Seine n'était pas triste du tout parce que c'est la fête de libération, de délivrance du peuple d'Israël. C'est comme ça, c'est de la libération. Et parfois, on est un petit peu loin de la Sainte-Seine. Mais ça va être un moment merveilleux parce que c'est la délivrance. Alors donc, c'est une grande joie, c'est une bonne idée. Josette, le Seigneur t'a inspiré. Bon point. Non, mais c'est important. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on fait le train-train toujours? Je connais ça aussi pendant des années. Sainte-Seine avait des crackers. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Biscuits très secs et très durs. Oui, mais on a connu ça aussi. On connaît de tout. Mais ça, ça change un petit peu. Le Seigneur veut nous délivrer des train-train, des traditions. Il veut nous donner la vie en abondance. Alors le Seigneur m'a montré, et je vais le lire avec vous, tout entier, un chapitre dans Jean, la volonté, la dernière volonté de Dieu, la volonté de Jésus pour vous. Il le déclare dans une prière. Il le prononce, il proclame dans une prière. Je vais le lire, vous le connaissez, mais Jean 17. Et Jean 17, je vais le lire avec vous. Le Seigneur m'a donné quelques pensées, vraiment. Et là, il montre combien c'est nécessaire de connaître le Père. Et peut-être qu'il y a des frères et sœurs ici, petits ou moins petits, perdus de vue. Et quand j'ai posé la question à cet homme qui est venu avec son épouse hier, Béril et moi, pendant 3 ans, j'ai l'impression qu'il avait un petit peu peur. Il est ancien dans une assemblée charismatique. Il est le seul ancien. Il est un pasteur et l'ancien. Et quand on a parlé un petit peu, je dis, mais dis-moi, est-ce que tu parles en langue? Il dit, ma femme, oui, mais moi, non. Je dis, mais non, pourquoi pas? Il dit, il faut savoir, John, il y a beaucoup d'exagération, ça revient à ça, parfois ça vient du diable, peur de tout. Il y a des gens qui sont chrétiens, même pasteurs peut-être, ils ont peur de Dieu. Ils ne connaissent pas vraiment le Père. Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Si vous croyez que Dieu est bon, et si vous êtes enfant de Dieu, Dieu ne se trompe pas, il ne va pas vous donner de pierre. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens, même responsables, ils ont peur de Dieu, mais dans le mauvais sens. Ce n'est pas la crainte de Dieu, mais peur que Dieu donne des choses qui vont... Seigneur, si je dis vraiment, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux être sur l'autel, mais qu'est-ce que tu vas faire encore avec moi? Et ça, il y a peut-être des frères et sœurs ici qui en souffrent. Et donc, je vais lire avec vous Jean 17. C'est la grande prière de Jésus. Et ça peut nous faire du bien, juste quelques pensées. Est-ce que, Jean-Luc, tu veux le lire, parce que ma voix est un petit peu rauque ce matin. Tu veux le lire ici devant, bien fort, s'il te plaît.
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde. Et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je l'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux.
Ça c'est vraiment un chapitre à méditer. Cette semaine, il y a tellement de choses dedans. Tout un programme pour une année peut-être et plus. Dans ces dernières semaines, je crois que le Seigneur a attiré notre attention sur le fait d'être un, d'être un corps, d'être lié ensemble, d'être une famille. J'aime beaucoup cette idée. Et je crois ici justement le mot « un » revient. Et ça, je crois, c'est le but dans cette épître, justement le but donc. Et puis on emploie juste le mot « afin que » souvent, « afin que nous ayons la communion ». Et donc, ça c'est très important. Dans la dernière grande prière de Jésus en Jean 17, donc c'est le grand sujet de sa prière, la communion, d'être un. Vous le voyez, tu peux regarder ensemble si vous voulez bien, dans le verset 11. « Afin qu'ils soient un comme nous ». Dans le verset 21, c'est encore une fois le désir de Jésus. Afin que tout soit un comme ton Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Un en lui, en Jésus, uni pour former un seul corps harmonieux. Le mot harmonieux revient. Relation humaine, relation harmonieuse avec Jésus par amour. Et ce dernier culte, donc on a pensé beaucoup à cela. Alors quand on est vraiment unis et un en Jésus, avec son Père, avec le Saint-Esprit, en pleine communion donc avec le Seigneur, on va expérimenter quelque chose de merveilleux. Et ce mot, six lettres, on va expérimenter sa gloire. Alors là, le mot gloire m'a fait beaucoup de bien pendant ces derniers mois. C'est quoi? On trouve ce nom et ce verbe de gloire 9 fois en Jean. C'est quoi, Jean 17? La gloire, c'est le poids de la présence de Dieu. C'est le poids de la présence de Dieu sur nous, de sentir sa présence. Et Jean-Luc a posé une bonne question. Est-ce que vous avez senti ce matin la présence du Seigneur? parce qu'il veut se manifester dans votre vie. Pas seulement la connaissance, mais la présence. Vous trouvez donc le mot gloire dans le verset 1. Tu voulais regarder avec moi. Glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. On le trouve dans le verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. On le trouve dans le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi. Nous le trouvons dans le verset 10. Je l'ai souligné dans ma Bible. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, etc. Donc il y a ces passages, 7-8 passages, et 9 fois on trouve le mot gloire ou glorifier. Donc c'est quoi la gloire? C'est la présence, le poids de la présence de Dieu sur nous. Est-ce que vous connaissez cette expérience? Quand je me suis converti en 58, juste un mois après la naissance de Nadège, parce qu'on a la vie éternelle, on reste jeune, il n'y a rien qui change. Tu ris, mais j'ai pensé à ça, c'est fort. Le 9 novembre, je suis converti. Nadège est née 10 ans plus tard, je crois. C'est ça aussi, juste... Quand je me suis converti, c'était comme je marche sur une nuée. Je planais pendant des semaines. La vie était facile. Le témoignage était facile. Et puis, il y a des choses qui sont venues lentement dans ma vie, religiosité, d'autres choses qui sont venues, et on ne plane plus avec le Seigneur. Ça devient plus difficile. Et moi, je crois, c'est dommage que ça arrive. Plus tard, je l'ai retrouvé. Et en ce moment, je l'ai retrouvé. Parce que le Seigneur, il y a des épisodes de tunnels, de déserts, donc ne vous plains pas quand c'est difficile parfois, mais ce n'est pas normal. Normalement, je crois, quand la présence du Seigneur est là, vraiment tangible dans notre vie, votre témoignage n'est pas une chose difficile parce que c'est le Seigneur qui le fait à travers vous. Les paroles viennent, les œuvres viennent. C'est le Seigneur qui le fait, c'est lui qui fait les œuvres. Il a préparé les œuvres d'avance afin qu'on le pratique, mais lui, il fait des œuvres à travers de vous. Comme Jésus était dépendant de son Père, nous sommes appelés à être dépendants de Jésus, et c'est lui qui fait les œuvres à travers de nous. Et ça, donc, j'ai remarqué qu'il y avait des époques dans ma vie, parfois c'était difficile, parfois c'était pas, mais ce qui est lourd devient facile, léger. Je trouve aussi facilement les mots dans le témoignage. Seigneur, moi je ne peux pas le faire, je vais m'humilier devant toi. Et c'est la première chose. Quand mon peuple s'humilie, me cherche, etc. On a médité sur cela. Je l'exaucerai du ciel et je guérirai leur pays. Humilié, Seigneur, je ne suis rien sans toi, mais avec toi, je peux faire des exploits. Et le Seigneur l'a fait, et puis j'ai eu des expériences que je trouve assez bizarres. Un jour, j'ai commencé à parler en langue, moi qui étais toujours contre. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Et j'étais en Hollande, en 84, un jour, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Moi qui étais toujours contre tout ça, tout ce qui était spectaculaire, parce qu'on ne sait pas si ça vient du diable, et puis les gens exagèrent, moi aussi. Seigneur, maintenant, je suis si content. J'étais dans une conférence et j'étais seul dans une chambre un après-midi, juste entre les réunions. Et je dis, mais merci Seigneur, l'amour de mes frères, l'amour de mes sœurs, ta présence, je commence à parler en langue. Et après cela, j'avais peur, je dis, mais maintenant je vais à Auchan, je suis devant la caisse, je commence à parler en langue, les gens pensent que je suis fou, pas du tout. Mais on a peur au début. Mais on donne sa langue au Seigneur. On donne sa vie au Seigneur. On n'a plus peur. Il y a peut-être des personnes qui ne parlent pas en langue encore aujourd'hui parce qu'on a peur. Et je crois qu'il y a parfois, il y a le diable qui est tout près de nous avec ses petits démons et il envoie des esprits de contrôle. Et parfois, c'est même à nous, on a peur de ne plus contrôler la situation. On veut contrôler. Au lieu de dire, Seigneur, toi, tu contrôles tout. Perdu de vue. Seigneur, aide-moi d'avoir vraiment confiance en toi. Jésus est venu pour montrer le Père. J'étais dans une autre réunion un jour, et il y avait beaucoup de gens, des centaines. Et je suis là, et puis soudain, il y a une femme derrière moi, je ne connais pas ces personnes. Il y avait des centaines. Et c'était dans une réunion, la dame dit, « Mais frère, est-ce qu'on peut prier pour vous, parce que vous avez un problème dans certains domaines dans votre vie ?» J'ai dit, « Mais c'est bien, vous pouvez prier. » Donc le homme aussi, elle, commence à prier pour nous. Commence à prier pour moi. Et a prié, et il prie pour moi, et je ne pouvais plus tenir sur mes jambes. Je n'avais jamais vu quelqu'un qui tombe par terre. Je ne connaissais pas ça du tout. Je ne l'avais jamais entendu, jamais vu. Il priait pour moi, l'un et l'autre. Et dans 5 ou 10 minutes plus tard, je tombe par terre dans le repos du Seigneur. Je crois que pendant une heure et demie, je ne pouvais pas me lever. Le poids de la présence du Seigneur sur moi. Je ne l'ai pas cherché, je ne le connaissais pas. Et le Seigneur m'a guéri là. Beryl aussi, il y avait quelqu'un qui prie pour elle, plus loin, 10 mètres plus loin. Et soudain, pendant que cet homme prie pour Beryl, Beryl est là, elle ouvre ses yeux, elle me voit par terre, elle dit, mon mari est par terre là. Je me souviens encore, elle dit, laisse-le, il est bien, le Seigneur prend soin de lui. On a connu ça, hein. Le poids de la présence de Dieu sur vous. Il y a des chrétiens qui ont peur de ça. Ça rime à quoi? Après, on va expliquer. Mais je vois ça dans Ézéchiel, je vois ça en Apocalypse. Il y a des passages que Dieu veut qu'on reste dans sa présence, qu'on se repose. Et j'ai fait des connaissances comme ça avec le Seigneur, des expériences que je ne connaissais pas. Et je n'ai plus peur de Dieu. Et je crois que nous devons prier pour le discernement du Seigneur, mais aussi pour être vraiment disponible. Seigneur, il faut être honnête, parfois j'étais perdu de vue. Fais cette prière parfois, Seigneur. Je veux avoir vraiment l'expérience avec toi. Parfois, il y a des problèmes et je les ai encore. Même à la maison, parfois, tu vois dans mon garage, de l'eau sous la porte. Je ne comprends rien. J'ai essayé de le réparer, mais ça continue. Parfois, l'imprimante ne marche plus. Il y a des problèmes. Maintenant, il ne faut pas venir chez nous parce que c'est comme un grand bateau. La chaudière, ça fait du bruit énorme, c'est comme un vieux bateau. Chaudière. Le garage. Mon imprimante. J'ai des problèmes, je ne peux plus avoir Code Channel. Maintenant, avec le satellite, avec... Un problème après l'autre. Et le diable fait tout pour nous harceler, pour nous faire mal. Tu dis, Seigneur, tout est dans tes mains. Quand ça ne marche pas, je ne dois pas être dépendant de mon ordinateur. Je ne dois être pas être dépendant de God Channel. Je dois être dépendant de personne, mais seulement du Seigneur. Et ça, c'est une chose que j'ai appris aussi. Ne repose pas sur les hommes. Vous pouvez les aimer beaucoup, mais n'attends pas que les hommes vont vous donner le salut. C'est le Seigneur seul. N'ayez pas peur. Votre vie est dans la main de Dieu. Et donc le mot gloire, c'est une chose, parce que souvent, sa gloire, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec le mot gloire? C'est la présence simple du Seigneur avec toi. Il t'accompagne. Tu es avec moi. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David dit en psaume 23, ne crains aucun mal, je suis avec toi. Ne crains rien, le Seigneur te connaît. Alors ce qui est arrivé, bien sûr, par le péché de l'homme, on est privé de la gloire de Dieu. Et là, Romains 3, verset 23, je l'ai appris par cœur très vite après ma conversion. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand Adam et Ève ont péché contre Dieu dans le jardin d'Éden, dans le paradis, ils se voient soudain, quand ils ont désobéi Dieu, ils se sont regardés, ils étaient nus. Ils ne voyaient pas ça avant. Pourquoi? Ils étaient couverts, je crois, de la gloire de Dieu. Et quand ils ont péché, ce vêtement de gloire est disparu. Mais Jésus est venu pour restaurer l'homme selon la pensée de Dieu. Parce que À cause du péché, l'homme n'était plus comme Dieu l'a désigné. Donc Jésus est venu pour restaurer. Et qu'est-ce que ça veut dire donc pour nous cette gloire ? Cette gloire, ce n'est pas que maintenant, quand on devient chrétien, soudain on est couvert avec toutes sortes de lumières autour de nous, mais c'est une gloire intérieure. La gloire de Dieu dans votre caractère. Avoir le caractère de Jésus en vous. Galates 5, verset 22. Les fruits de l'Esprit. Et je crois, donc cette gloire, Jésus veut le donner. J'ai noté ici, je ne sais pas pourquoi. Jésus a parlé de ça, Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je crois que le Seigneur Jésus, par son Esprit donc, par son Esprit Saint, il veut régner en nous. Et donc nous sommes prédestinés, selon Romains 8, à devenir comme Jésus. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon ordinateur qui ne marche plus, par exemple. Le satellite, je ne peux plus le recevoir. Toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que comme nous le voulons. Parce que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est en train de forger notre caractère. Et ça prend du temps. Moi, je crois, ça c'est peut-être le plus grand problème qu'on a dans la relation d'aide. Il y a des gens qui viennent, ils ont des problèmes après problèmes, parfois c'est leur propre faute, à cause de leur caractère encore, qui n'est pas encore formé. Immaturité. Immaturité. Et je crois donc que ça, c'est une chose importante. Le Seigneur est en train de nous préparer pour la gloire, mais il veut que vous deveniez des hommes et des femmes mûrs. Il veut que nous soyons ensemble, que nous puissions expérimenter les uns les autres la gloire du Seigneur. Mais être un, pourquoi ? Former un corps, là aussi j'ai pensé beaucoup à cela. Le Seigneur veut que nous soyons disponibles pour devenir ses mains, ses pieds, sa bouche. Il est le grand missionnaire et il veut vous employer aussi comme ses pieds sur la terre, comme ses mains dans le travail pratique et social. Pour embrasser quelqu'un, pour le tenir parfois, on se sent seul, la solitude. Pour dire une chose, parce qu'avec votre langue, vous pouvez bâtir, vous pouvez aussi détruire. Seigneur, je donne ma langue, je donne mes mains, je donne mes pieds. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Et donc, on forme un corps, pas pour rester ensemble, qu'on est bien. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ce chant de louange. Pas seulement cela. J'ai découvert juste un verset que je donne encore. Dans ce passage, nous voyons aussi que le Seigneur veut nous envoyer. Et ça, je le trouve dans le verset 18. Comme un corps, on aime le Seigneur, on est aimé par le Seigneur, et il dit à ses, dans sa prière, « Comme tu m'as envoyé, verset 18, Jean 10, 17, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai aussi envoyés dans le monde. » Et ça, vraiment, je crois, ça c'est sur notre cœur, pour Béril et moi-même, que c'est bien d'être ensemble, d'être rempli du Saint-Esprit, chanter de beaux chants, avoir une bonne sainte scène. Mais je crois, le Seigneur veut nous montrer les gens autour de nous qui se perdent, et il veut nous envoyer. Et si nous sommes bien ensemble, soudés ensemble, on va fonctionner comme un corps. C'est vraiment sur notre cœur, je ne sais pas comment, mais je crois que le Seigneur va préparer les cœurs des gens autour de nous, enfants, jeunes et adultes. Et vous savez, nous devons prier beaucoup pour les jeunes aujourd'hui, les enfants. Je suis content de voir quelques jeunes ce matin ici. Je vais vous dire quelque chose que j'ai lu hier. Dans les notes de Selvin Hughes, et Anne-Elisabeth lise aussi, vous savez ce que j'ai lu hier. Ce n'est pas la France. Dans ses notes bibliques, il parle de l'Angleterre. En Angleterre, chaque semaine, il y a l'église de Jésus. L'église de Jésus, l'église en Angleterre, perd 1000 jeunes qui ne vont plus à l'église. 1000 jeunes par semaine. Et je crois que le moment est venu qu'il y aura vraiment donc un combat de nos prières pour les enfants, pour les jeunes de notre nation en France. Nous devons être mobilisés. C'est bien d'avoir des réunions, d'être un corps, être un Jésus, d'avoir des expériences de la présence de Dieu. Mais vraiment, c'est ma prière que ça bouge maintenant. Moi, je suis pour la communion fraternelle, j'aime la musique, j'aime la louange, mais ce que ça bouge. Et ça, je crois que nous devons vraiment prier pour être mobilisés, parce que c'est Jésus qui l'a dit dans sa prière, et j'étais très touché par cela. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Le Seigneur nous a envoyés, parfois, on n'a pas bougé. Et je crois que si vraiment nous goûtons de l'amour de Dieu pour nous, cet amour de Dieu n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour le monde, parce que Dieu a tant aimé le monde. C'est le premier verset que vous avez appris, pas que. Alors, Seigneur, touche notre cœur, touche mon cœur de nouveau. Aussi pour les perdus. Jean-Luc, il a eu un songe, ce chemin qui s'arrête soudain, précipice, ravin. Et les gens qui tombent dans ce ravin, ils seront perdus pour l'éternité. Et quand il est 2-3 semaines à la télévision dimanche après-midi, j'ai vu cette émission sur la sœur Emmanuelle. Et on a posé la question, est-ce que vous croyez dans l'enfer? Elle n'a pas répondu directement. Mais elle dit, parce qu'il dit, le gars qui a posé la question dit, mais Monsieur Lustiger, à Paris, donc archevêque de Paris, maintenant il n'est plus, il a dit, il est à l'enfer peut-être, mais l'enfer est vide. Alors il se trompe. Il se trompe. Hier, je crois que c'était hier, j'ai reçu un coup de téléphone le jour avant, d'un homme que je connais 20-25 ans. Un homme qui parle toujours des choses de la Bible, des livres sur la Bible, pas de la Bible même, et puis toujours sur les choses de Dieu, et il tourne en rond depuis 20-25 ans. Et je parle avec lui sur l'enfer, je dis, mais je veux te dire quelque chose, Gérard. Dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, Jésus parle plutôt de l'enfer que du ciel. Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit, oui, quand il en a parlé, c'est peut-être qu'ils avaient peur qu'ils n'allaient pas le suivre. Invention des hommes. Mais l'enfer existe, Jean-Luc l'a vu dans un songe. Et vous savez, vous connaissez tous le nom de l'armée du salut. Le fondateur, General Booth, en Angleterre, c'est la vision qu'il a eue avant de fonder l'armée du salut qui existe, je crois, 150 ans. Avant cela, il a vu dans un songe aussi, dans une vision, la même chose que Jean-Luc a vu. Soudain, il y avait une route, soudain, il y avait l'abîme, et c'était l'enfer. Et quand il a vu, donc il a une vision de l'enfer, il a dit, vraiment, il faut faire quelque chose. Et il a créé, donc, avec l'aide de Dieu, l'armée du salut. Et je crois que le Seigneur veut que nous soyons une armée pour sauver les âmes. Le temps est court. Le temps est court, le Seigneur va revenir bientôt. Et je crois que ça ne sera pas quelque chose que vous ne pouvez pas faire, l'évangélisation. Mais le Seigneur va vous donner des instructions, va nous donner des instructions, ce qu'il faut faire. Et je crois que ce ne sera pas quelque chose de lourd et impossible. Si ça vient de Dieu, et quand ça vient de Dieu, il va nous donner des armes, il va nous donner tout ce qui est nécessaire, il va nous donner des traités à distribuer, il va préparer les cœurs, et vous allez voir, le Seigneur va vous donner des paroles. Et je crois que l'évangélisation n'est pas seulement pour un ou deux qui ont le don de l'évangéliste, mais c'est pour toute l'Église. Nous sommes tous à appeler à être des témoins. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? Parce que c'est assez, je crois, que nous gardons l'amour de Dieu pour nous-mêmes, la grâce de Dieu pour nous-mêmes. Je crois que le moment est venu que ça bouge. Le printemps va venir, la nouvelle vie. Et je dis, Seigneur, merci. Je peux voir les plantes dans mon jardin. Il y a des gens qui sont aveugles qui ne le voient pas. Et sachez bien qu'il y a des gens autour de vous, et c'est comme un voile devant les yeux. Ils ne savent pas ce qu'on fait ici. Ils sont aveugles. C'est un monde qui n'existe pas pour eux. Ils sont sourds et aveugles. Mais quand Dieu va préparer leur cœur, Dieu peut ouvrir leurs yeux et leurs oreilles, leur cœur. Et je crois donc, nous devons prier, Seigneur, dirige-nous comme un corps. Dirige-moi, Seigneur, vers les gens que tu as préparés d'avance. C'est le travail de Dieu. Et parce que c'est son travail, c'est léger. Ne prends pas ça comme un fardeau, s'il vous plaît. Que le Seigneur enlève tout le fardeau ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parfois, on est fatigué par des programmes d'évangélisation. On n'a pas besoin de programmes, on a besoin de la puissance de Dieu et sa vision et son amour. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes sur l'autel? Parce que peut-être vous dites, difficile pour moi, je ne sais pas comment faire, moi non plus. Mais le Seigneur va ouvrir les chemins ici, et je crois qu'il veut qu'il y ait un printemps avec une nouvelle vie. C'est vraiment dans mon cœur. Le Seigneur, il veut donner cette gloire, cette puissance de sa présence. C'est comme soudain, vous le sentez. Et parfois, je l'ai eu ici. Jean-Luc m'a vu il y a quelques mois. J'étais par terre ici, je ne pouvais plus me tenir sur mes pieds. C'était la présence de Dieu. N'ayez pas peur. Dieu ne va pas vous faire mal. Il vous aime. Mais il ne dit pas je t'aime, et puis il reste tout près, il ne bouge plus. Non, il nous aime afin que vous puissiez montrer l'amour aux autres. On va prier ensemble ? Jusqu'à penser. Seigneur, on va se mettre debout si vous voulez bien vous recevoir. Père céleste, nous te connaissons parce que Jésus est venu. Et ce matin, tu es là avec tes bras ouverts pour nous accueillir, pour nous serrer contre ton cœur, pour nous donner des instructions, pour nous dire aussi, je t'aime mon enfant, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. Tu es à moi. Oh, quel amour le Père nous a témoigné que nous sommes appelés enfants de Dieu, nous le sommes, quelle grâce. Mais Seigneur, je demande vraiment que nous soyons touchés ce matin par cette expérience de Paul qui a dit, c'est l'amour de Christ qui me presse, qui me pousse. Oh Seigneur, s'il te plaît, ce matin, prépare-nous, prépare notre cœur, prépare notre caractère aussi, Seigneur, que nous puissions être comme Jésus de plus en plus. Que nous puissions entendre ta voix, que nous puissions, Seigneur, recevoir vraiment tes instructions pour aller vers les perdus. Seigneur, nous crions vers toi ce matin, par amour pour les autres, nos prochains. Nous l'avons entendu, Seigneur, de t'aimer avec tout notre cœur, d'aimer notre prochain. Seigneur, le moment est venu maintenant que nous puissions le mettre en pratique. C'est le désir de nous tous, Seigneur, je suis sûr. Seigneur, montre-nous comment faire. Que nous puissions entendre ta voix. Seigneur, tu dis dans les actes des apôtres, Seigneur, que nous allons avoir des visions, des songes. Entendre ta voix. Seigneur, je demande pour toute l'Assemblée, pour nous tous ici, que nous puissions entendre ta voix, avoir des songes qui viennent de toi, des manifestations de ta gloire dans notre vie. Viens avec ta gloire sur nous maintenant. Père céleste, descends avec ta gloire sur nous. Que nous puissions sentir ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les chants que nous avons chantés. Je sens que le Seigneur est ici en ce moment. Merci, Seigneur, pour ces chants de louange. Merci pour la musique. Merci pour Jacques, Seigneur, qui a composé ces chants, Seigneur. Que ça me fait du bien ce matin. Merci pour ce que j'ai entendu de ma sœur, Seigneur Josette, ici. Tu as travaillé son cœur, Seigneur, par l'Évangile. Merci pour ce qu'elle a lu, Seigneur. Merci pour la Sainte Seine. Merci pour cette salle, Seigneur. Merci pour ce voisinage, Seigneur. Merci pour cette ville, cette région. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci de ce que tu nous parles ce matin. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci pour nos familles, Seigneur. Touche ceux qui ne sont pas encore à toi. Seigneur, je demande d'une façon spéciale pour Joël. Console-la, Seigneur, ma sœur. Tiens-la, Seigneur, dans tes mains. Console-la, Seigneur. Encourage-la, Seigneur. Bénis son mari, Seigneur. Tire-le vers toi. Oh, Seigneur, il y a d'autres ici. Les mamans, les papas qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, nos enfants, peut-être qu'ils ne suivent pas. Seigneur, console-nous et montre-nous comment prier. Seigneur, que ce soit maintenant quelque chose de pas un jeu qu'on joue, mais qu'on soit vraiment touché de notre cœur, de prier avec notre cœur, prier par amour pour les autres, avec ton amour. Apprends-nous à prier. Seigneur, je demande vraiment que notre assemblée puisse grandir parce que tu ajoutes des pierres. Tu ajoutes des pierres, ce n'est pas nous. C'est toi qui bâtis ton assemblée, Seigneur. Nous ne pouvons pas le faire. C'est ton travail, mais nous voulons être disponibles. Et maintenant, si vous êtes disponibles, mettez vos mains devant vous et recevez. Recevez du Seigneur sa puissance, sa victoire, son amour, ouais, sa direction. Est-ce que vous êtes disponible maintenant? Dites dans votre cœur maintenant, juste pour quelques secondes, Seigneur, comme tu le veux. Je veux te suivre, dirige-moi. Dites-le dans les mots qui viennent. Parle à votre Sauveur. Baalia baba samar malamata. Kolia la baba samar malamata. Kolia la mamma kamalakton. Oui.